France Info.
Et à la une, le recueillement et la colère devant la Sorbonne hier. Rassemblement à Paris après la mort de Quentin de Ranque, militant nationaliste agressé à Lyon. L'ultra-gauche est pointée du doigt. Toujours deux départements en alerte rouge au cru, la Gironde et le Lot-et-Garonne. De nombreux autres sont aussi touchés par les fortes pluies. Nous serons avec des maraîchers du Cotentin. Un reportage à venir aux côtés de salariés de Renault qui désormais vont fabriquer des drones militaires. Et puis la très large victoire du 15 de France au tournoi Destination. On entendra la star du rugby français, Antoine Dupont, forcément très satisfait. L'ultra-gauche est désignée par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, mais il faudra attendre cet après-midi pour que le procureur de Lyon donne des précisions sur l'enquête après la mort de Quentin de Ranque, militant nationaliste agressé jeudi soir à Lyon en marge d'une conférence de l'élu insoumise Rima Hassan à Sciences Po. L'ultra-gauche est aussi accusée par des centaines de personnes qui se sont rassemblées hier à l'appel de plusieurs organisations identitaires sur la place de la Sorbonne à Paris pour un hommage, Sandrine Etourandeg.
Autour de Baptiste, présenté comme un proche de Quentin de Ranque, de prendre le micro. Tu étais ce jeune homme pur, intelligent, curieux, dit son ami, ce jeune Français auquel nous aimerions tous ressembler. D'après Baptiste, tout militant, patriote, nationaliste, identitaire, est un héros.
Quentin, tu es aujourd'hui un martyr.
Puis il demande à la foule de réciter une prière.
Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Et d'observer une minute de silence en mémoire du jeune homme tabassé à mort. Benoît, un lycéen, s'identifie à l'étudiant de 23 ans qui, selon l'Action française, avait un temps milité dans ses rangs.
Quentin, oui, est un martyr parce que quand on est, oui, un militant nationaliste, identitaire, on se fait traiter de tous les noms, de facho, de raciste, alors qu'on veut simplement la protection de notre pays avant tout. On est fiers d'être français et je dis pas que c'est tous les gens de gauche qui sont comme ça, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas parler parce qu'on sait pas s'ils sont dans le déni ou pas, ou s'ils ont peur d'être face à leur tort.
Quentin aurait pu être mon fils.
J'ai trois garçons qui sont jeunes.
Souffle Marie.
Les enfants, ils ressemblent au profil de ce petit jeune, c'est-à-dire qu'en fait ils défendent aussi leurs idées de façon non violente. J'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose.
J'espère, dit Marie, que justice sera faite.
France Info, reportage signé Sandrine Etourandeg. Et donc à 5h10, nous referons un point complet sur ce que l'on sait de cette affaire après la mort de Quentin de Ranque à Lyon. La France toujours menacée par les crues après la tempête Nils et d'importantes pluies. Toujours deux départements en rouge, on le répète, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Une vingtaine en orange dans la moitié ouest du pays. Et d'autres départements, eux, ne sont pas en alerte orange, mais ils ont subi des dégâts importants. Exemple dans la Manche, Marie Stareki, où les maraîchers enregistrent des pertes dans leur culture.
C'est le cas de Philippe Leclerc, producteur de légumes à Réville. Sur son exploitation de 90 hectares, c'est devenu impossible de travailler correctement à cause de la pluie.
Le tracteur n'arrive plus à avancer, tout simplement. La machine se met en travers, donc les roues ne montent pas comme il faut dans l'arracheuse. Donc il y en a qui vont être abîmés par les batteurs, par les brosses. Ils vont mal se positionner, donc ils vont se mettre de travers, ils vont être tordus. Ça fait beaucoup plus de casse.
Résultat, ça demande plus de travail.
On a une usure physique du personnel aussi, parce que les poireaux, il y a de la terre dedans, donc c'est beaucoup plus dur à travailler. On va passer plus de temps à l'épluchage, on va passer plus de temps au lavage et à côté de ça, on va pas gagner plus. Ça va nous coûter plus.
Parce que moins de légumes vendus à un prix trop bas, pour Philippe Leclerc, ce n'est pas viable.
Il y aura automatiquement un impact financier parce qu'à partir du moment où on récolte du poireau, entre autres, à la moitié de son prix de revient, ça fait des trous dans les exploitations. Donc on espère qu'il n'y aura pas encore de dépôt de bilan ou des gens qui vont rester sur le côté de la route, quoi.
Lui qui est producteur depuis bientôt 30 ans a l'habitude de ce genre de situation, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, glisse-t-il.
On attend tous l'arrivée du printemps avec impatience. L'hiver est long, ouais.
Témoignage recueilli par Marie Stareki, ici Cotentin pour France Info. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, le plus emblématique des opposants à Vladimir Poutine en Russie. Alexei Navalny mourait en prison dans des circonstances toujours troubles, mort de cause naturelle, selon Moscou. Mais ce week-end, 5 pays européens, dont la France, ont affirmé dans un communiqué qu'il avait été empoisonné à l'aide d'une toxine létale. Cette accusation, Sylvain Tronchet, elle est démentie par le Kremlin. Et en Russie, l'information est très peu relayée, les médias font le service minimum.
Dans un premier temps, aucun média russe n'a relayé ces accusations. Comme souvent, il a fallu attendre une réaction de l'État par l'intermédiaire d'une courte déclaration de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. C'est une opération de désinformation, a répliqué Maria Zakharova, visant à détourner l'attention. Les chaînes de télévision russes, elles n'ont même pas repris l'information samedi soir, comme du temps de son vivant. Elles évitent autant que possible de parler d'Alexei Navalny. Ces accusations d'empoisonnement ne sont pas nouvelles. Elles avaient déjà été rendues publiques en septembre dernier par Yulia Navalnaya, la veuve de l'opposant, avait expliqué qu'elle avait pu faire sortir de Russie des échantillons biologiques de son mari et qu'ils avaient été analysés par deux laboratoires. Le fait que 5 pays accréditent cette accusation lui donne évidemment plus de poids, mais en Russie, cela ne changera probablement rien. Ce matin, quelques centaines de personnes probablement se rendront sur sa tombe pour lui rendre un dernier hommage en silence, déposer des fleurs, l'un des derniers actes publics qui soit encore toléré en Russie.
Sylvain Tronchet à Moscou pour France Info. Face à l'attitude de la Russie et face à la guerre en Ukraine, voilà un virage pris par Renault. Le constructeur automobile français va produire dans son usine du Mans des drones militaires aux alentours de 600 appareils produits par mois d'ici la fin de l'année. Ils seront produits par une soixantaine de salariés volontaires. Julien Penaud, vous avez justement rencontré des salariés à la sortie de l'usine et ils sont en majorité favorables à ce projet.
Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, à la production de drones militaires à l'usine Renault ?
Que ça soit des drones ou des véhicules, ça ne me change rien. Au contraire, ça m'intéresse plus à aller travailler là-bas. L'assemblage, la conception différente des pièces automobiles.
Et sur l'aspect faire des armes ?
Ça m'importe plus. On va faire que la structure.
Écoutez, ça amène de l'activité et pour la défense du pays, il faut bien en construire. Voilà. Bonne journée. Au revoir.
On est favorable suite à l'enquête où 90% des gens qui ont été interrogés donc par rapport à cette activité.
José Sensibriand, délégué syndical CFE-CGC, syndicat des cadres, agents de maîtrise et techniciens majoritaires dans l'usine du Mans.
Ça permet aussi de garantir une activité et aussi de pérenniser le site, de mettre en avant le savoir-faire sur l'assemblage de pièces.
Mais cette nouvelle activité industrielle tournée vers la défense est vivement critiquée par la CGT. Richard Germain, secrétaire adjoint du syndicat.
C'est comme si en fait on nous disait vous allez fabriquer des fusils, mais rassurez-vous, c'est pas nous qui mettons les balles dedans. En fait, on fabrique quand même le support qui va permettre en tout cas de bombarder. Et ça, c'est gênant d'un point de vue éthique.
C'est pourquoi l'ensemble des syndicats demandent à la direction que seuls les salariés volontaires y participent.
Un reportage ici même de Julien Penaud pour France Info. Il est 5h07. Les Français vont-ils remporter une médaille de plus en ski alpin aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina? Dernière chance aujourd'hui avec le slalom messieurs. C'est à partir de 10h à suivre sur France Info. En lice pour la France, Paco Rassa et le champion olympique en titre, Clément Noël. Du rugby avec une deuxième victoire en deux matchs pour le 15 de France dans le tournoi des Six Nations. Après un succès face à l'Irlande le week-end dernier, voilà une très large victoire hier au Pays de Galles, 54-12. Les Bleus sont désormais les seuls à pouvoir décrocher un grand chelem cette année, mais attention, il ne faut pas s'emballer, prévient le capitaine des Bleus, Antoine Dupont.
C'est ce pourquoi on se prépare depuis le début du tournoi, pour essayer de gagner tous les matchs. Pour le moment, on est arrivé à gagner les deux premiers. Après, vous allez faire votre boulot, nous on va faire le nôtre. Je pense qu'on a cette expérience-là aujourd'hui, de se dire que jusqu'à la dernière journée, le tournoi il sera pas gagné. Aujourd'hui, on est en bonne position, oui, mais il nous reste 3 gros matchs. On voit l'intensité des matchs chaque week-end, donc c'est très dur de gagner tous les week-ends. Donc la meilleure façon d'arriver au bout de cette compétition, c'est prendre les matchs les uns après les autres avec le plus de sérieux possible, le plus de concentration possible pour pouvoir se diriger et être en meilleure posture à la fin du tournoi.
Les matchs les uns après les autres, justement le prochain pour le 15 de France, ce sera dimanche à Lille face à l'Italie. La France championne d'Europe de badminton en équipe, les Français se sont imposés hier à Istanbul. Ils s'imposent face aux Danois. Et pour vous donner une idée de l'exploit, c'est la première fois que les Danois ne sont pas champions d'Europe. Il a fallu des Français, évidemment. Et puis terminons la liste des champions avec Maître Mouette et Chandon. C'est le nom de la championne du monde du cri de la mouette. Elle a été élue au carnaval de Dunkerque hier. Laurie, elle est huissier de justice de profession. Succès, et elle succède au champion de l'année dernière. Lui, c'était Michel Polnamouette. J'ai vu que ça vous avait beaucoup intrigué, Christine Peña.
Absolument.
Eh bien, écoutez, passons à votre météo, votre mouetteo, d'ailleurs, dirais-je, avec une nouvelle perturbation.
Bah oui, il y a encore des perturbations pour ce début de semaine, le milieu de la semaine également. Nous avons des températures qui font le yo-yo. Elles sont descendues ce week-end, elles remontent, donc c'est vraiment de la pluie. La neige se cantonne en montagne cette fois-ci. En revanche, nouveau petit refroidissement pour le milieu de la semaine. Entre mercredi et jeudi, on pourrait de nouveau avoir de la neige jusqu'en plaine, sur la moitié nord en tout cas. Et puis ensuite, nous avons des températures qui vont baisser, mais l'anticyclone qui devrait se mettre en place pour la fin de la semaine, qui devrait être ensoleillée, week-end compris.
Allez, on croise les doigts. Merci beaucoup Christine Peña. 5h10.